Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Marc, au chapitre numéro 12, afin de lire les textes de la prédication qui seront au nombre de 3. Le premier texte, dans Marc 12, des versets 35 à 40. Jésus prit la parole et se mit à enseigner dans le temple. Comment les scribes peuvent-ils dire que le Christ est le fils de David ? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit : « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils ? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes. » Ils désirent se promener en robe longue. Ils désirent les salutations sur les places publiques, les premiers sièges dans les synagogues, les premières places dans les repas. Ils dévorent les maisons des veuves et font pour l'apparence de longues prières. Ils subiront une condamnation particulièrement sévère. Ensuite, un deuxième texte dans l'Ancien Testament, le psaume 110. Psaume 110 que nous lirons entièrement. Oracle de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein de dévouement. Au jour où tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, à toi la rosée de ta jeunesse, l'Éternel l'a juré et ne le regrettera pas. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchizedek. Le Seigneur est à ta droite, il écrase des rois au jour de sa colère. Il exerce le jugement parmi les nations, tout est plein de cadavres. Il écrase le chef d'un vaste pays, en chemin il boit au torrent, c'est pourquoi il relève la tête. Et le dernier texte dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, des versets 2 à 5. Romains 1, des versets 2 à 5. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom, à l'obéissance de la foi, toutes les nations. Jusqu'ici, les textes de la prédication de ce matin.
Le Saint-Esprit est-il le Seigneur de nos pensées ce matin ? Si ce n'est pas le cas, ce sera difficile de comprendre sa parole. Nous prions donc qu'il soit le Seigneur de nos pensées, pour que nous puissions comprendre cette parole. Nous voici donc à nouveau plongés dans l'Évangile selon Luc. Donc nous faisons un petit périple. Oh, vous êtes attentifs, c'est magnifique! Joli. Oui, c'est Marc, exactement. Donc nous faisons un périple dans l'Évangile selon Marc, bien joué, et donc qui est certainement d'ailleurs en grande partie le témoin de Pierre, hein, comme on l'a déjà vu ensemble. Dans notre série où nous cheminons dans cet Évangile, nous nous laissons en fait enseigner au fil du texte. Nous ne choisissons pas ce que nous allons étudier, nous allons simplement voir ce qui est écrit et chercher à comprendre ce que Jésus veut nous dire. Nous arrivons ici, en fait, dans cet évangile au chapitre 12, déjà avant, à la fin de la vie de Jésus, à la dernière semaine de la vie de Jésus. Et en fait, Jésus est venu de Jéricho la semaine passée, si on est dans la dernière semaine, hein, et où en fait, il avait rencontré des aveugles qu'il avait appelés « Jésus, fils de David, aie pitié de nous ». Hein, guéris-nous, donne-nous la vue. Peut-être vous vous souvenez de cela. Le dimanche qui a débuté cette semaine, hein, donc nous sommes le mardi si jamais dans l'histoire aujourd'hui, hein, le dimanche de cette semaine, eh bien, il est entré à Jérusalem sous l'acclamation de la foule, hein, qui disait « Béni soit le règne qui vient, le règne de David ». Hein, donc ça c'est dimanche, il y a 2 jours par rapport au texte que nous voyons aujourd'hui. Et donc le compte à rebours a commencé. Le dernier lundi de la vie de Jésus dans son corps mortel est passé. C'était hier, il a fait de l'ordre dans le temple. Et le texte de ce jour, donc situe ce jour le mardi, et les questions d'enseignement public. Donc Jésus, hier, a fait de l'ordre dans le temple, il est rentré à Béthanie, il est revenu le matin dans le temple, et il y a eu des enseignements dans ce temple. Et c'est ce qui se passe en fait dans cette journée. Et nous allons réfléchir ici aujourd'hui aux dernières paroles publiques de Jésus. Parce qu'en fait aujourd'hui, ce sera les dernières paroles publiques de Jésus. À partir de après les paroles que l'on voit aujourd'hui, il parlera encore à ses disciples. Et ensuite, il y aura l'arrestation, il y aura un jugement. Là, c'est vrai qu'il sera aussi devant d'autres personnes. Mais c'est les derniers enseignements publics que l'on voit de Jésus aujourd'hui. Alors ce mardi, encore fâché par l'ordre que Jésus a fait dans le temple lundi, les chefs religieux lui en veulent à mort. Et ils viennent vers lui dès le matin, dès qu'ils le voient dans le temple, pour lui poser des questions. Leur idée, en fait, c'est de lui poser des questions difficiles auxquelles il ne pourra pas répondre pour, en fait, le condamner. Dire, ben voyez, c'est quelqu'un qui doit être condamné. Mais Jésus, en fait, lors de toutes les questions qui lui sont posées, utilise ce temps pour donner des enseignements fondamentaux. C'est le renversement. Et nous avons déjà vu ensemble donc plusieurs éléments. La première question, peut-être vous vous souvenez, nous a donné la clé de la manière de vivre face aux autorités. La clé de la manière de vivre face aux autorités, elle est simple. Jésus l'a dit. Il a dit « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est ça la clé en fait. Il n'a pas dit que ça, mais c'est la clé. C'est-à-dire que nous reconnaissons que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais à Dieu, et nous vivons notre soumission à toute autre autorité en démontrant notre obéissance à Dieu. C'est ça la clé. Deuxième question, qui voulait le piéger hein, par rapport à ce mari qui a eu plusieurs femmes, cette femme, puis ensuite il est ressuscité, avec qui sera-t-il, enfin, etc. Vous vous souvenez peut-être de la question. Et en fait, là, Jésus écarte la théologie libérale qui ne croit pas en miracle et à la puissance de Dieu. Et il met la compréhension de l'Écriture et la puissance de Dieu au centre. Ce Dieu des vivants. Et donc c'est le fondement de notre foi que Jésus a posé lors de cette question. La troisième question, c'était la question quel est le plus grand commandement hein, donc là, c'est quoi le plus grand commandement bon, peut-être que vous vous souvenez. Hein. Et là, Jésus a donné en fait le moteur de nos vies, hein, qui est aimer Dieu et son prochain, en ayant l'amour de Dieu pour carburant. Voilà, c'est ce qu'on avait vu ensemble, donc par rapport à ces questions. Donc, et Jésus avait dit cela face aux personnes qui étaient présentes. Un scribe avait dit, oh, mais c'est une très bonne réponse, hein, peut-être que vous vous souvenez. Et puis Jésus avait dit au scribe qui avait reconnu cette bonne réponse, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et plus personne n'osa lui poser des questions. Voilà, c'est là qu'on en est. Ça va? Vous êtes revenu avec moi dans la situation? Et c'est maintenant Jésus qui va poser des questions. Donc ce n'est plus les gens qui viennent lui poser des questions, ils n'ont pas pu le coincer, hein, si vous voulez. Et maintenant c'est lui qui va poser la question. Il va permettre à ceux qui ne sont pas loin d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que, et ça c'est une affirmation que je dis et que je vais expliquer, hein, bien sûr, car celui qui saura répondre à la question de Jésus et qui la vivra, entrera certainement dans le royaume de Dieu. Celui qui saura répondre à la question de Jésus et qui la vivra, entrera certainement dans le royaume de Dieu. Alors ça, c'est une affirmation, et maintenant, on va le développer pour comprendre pourquoi je vous donne cette affirmation. Donc, on va d'abord chercher à comprendre ce texte qui peut sembler un peu obscur, hein. Jésus fait mention d'un texte dans l'Ancien Testament, il parle d'un seigneur qui parle de seigneur de David. Voilà. On va un petit peu essayer de comprendre tout ce que cela signifie ici, ce que ça signifie pour nous. Et nous terminerons par un deuxième point où nous voyons Jésus mettre en garde contre ceux qui ne répondent pas à sa question. Mais ça, on le verra à la fin. Donc, qui est ce fils de David qu'il appelle Seigneur? Ça, c'est un peu la question qui est ici. Alors, on va relire le texte pour bien l'avoir en tête. Donc, ayez vos Bibles ouvertes dans Marc 12, au verset 35. Donc, juste avant, il est dit, plus personne n'osa lui poser de questions. Et voilà, que Jésus prit la parole et se mit à enseigner dans le temple. Comment Les scribes peuvent-ils dire que le Christ est fils de David ? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils ? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Voilà le texte, ça va ? Bon, on va creuser. On va parler de la double question de Jésus. En fait, il y a une double question de Jésus ici dans ce texte. Et remarquons quelle est la dernière chose que Jésus fait devant la foule. Là, je vais faire une petite remarque d'abord avant de nous plonger ceci. C'est la dernière chose que Jésus fait devant la foule ici. C'est la dernière chose qu'il dit. S'il vous restait qu'une seule intervention devant un public avant votre mort, que diriez-vous ? Une seule intervention possible. Et vous savez que vous allez mourir dans les 3 prochains jours. Ben, c'est exactement la situation de Jésus, en fait. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il n'a pas fait un miracle spectaculaire, ou quelque chose du genre, pour convaincre tout le monde, en fait, de qui il était. Non, il prend la parole et se met à enseigner. En fait, cela devrait nous pousser à chercher avant tout l'enseignement de Jésus. Ce qui est le plus important qu'il veut donner, c'est son enseignement. Jésus est celui que nous devons aimer écouter et nous repentir de toutes les fois où nous n'avons pas envie de l'entendre nous enseigner. La dernière chose qu'il peut faire avant de mourir, c'est enseigner. Puis nous, on dit, attendez, mais pour lui, c'est super important. Qu'il nous donne cette grâce de dire, oui, je veux l'entendre. Si nous aimons Jésus plus que tout, si quelqu'un dit, moi, j'aime Jésus, c'est bien. Si nous aimons Jésus le plus que tout, nous serons fascinés par son enseignement. Vous dites à quelqu'un, ouais, je t'aime beaucoup, mais quand il parle, vous ne l'écoutez pas. Si nous sommes tellement, permettez-moi le mot, si nous tellement amoureux quelque part de Jésus, eh bien, on ne se lasse pas de l'écouter. On ne s'en lasse pas. On est heureux. On est bien dans sa présence. Si Jésus est réellement notre Seigneur, celui qui a le gouvernement de nos vies, si vous voulez, notre roi, eh bien nous nous empresserons de l'écouter. On veut savoir ce qu'il veut nous dire. C'est notre roi, c'est notre Seigneur. Nous allons quelque part boire ses paroles comme du nectar rafraîchissant, fortifiant, pour nous mettre à l'œuvre selon ses ordres. Parce que ses ordres sont toujours bienveillants pour ce qui est bon. Voilà, ça c'est la petite remarque par rapport à ce que Jésus fait. La dernière chose avant de mourir, enfin devant le public, c'est enseigner. Donc quelque part, que le Seigneur donne cette grâce de dire « je veux écouter son enseignement ». Ça c'est un élément important. Arrivons à sa double question. Donc, vous voyez au verset 35 et au verset 37, il y a 2 questions. Elles sont liées. Hein, au verset 35, c'est « comment les scribes peuvent-ils dire que Christ est le fils de David ?» Et au verset 37, « David lui-même l'appelle Seigneur, comment donc est-il son fils ?» Voilà, c'est un peu la double question qu'on va chercher à comprendre. On va avancer donc pas à pas, il faut un peu s'accrocher, il semble que le Seigneur veut qu'on réfléchisse aujourd'hui, il n'a pas fait les choses toutes simples, mais je pense que quand on réfléchit, on arrive à aussi mieux l'intégrer que quand les choses nous sont données toutes faites. Donc le Christ est-il fils de David ? On va commencer par là. Le Christ est-il fils de David ? Juste encore en passant, je le répète souvent, Christ, Messie, Ouin, c'est la même chose, hein. Donc si je dis Jésus-Christ ou Jésus-Messie, c'est pareil. Ça fait des fois un peu drôle, hein, mais c'est vraiment comme ça. Puisque Messie c'est en hébreu, Christ c'est en grec, et puis Ouin c'est en français. C'est le même terme. Okay? Donc ça c'est important d'avoir en tête. C'est pour ça quand on dit que David dit le Messie dans l'Ancien Testament, ou David dit le Christ, en fait c'est la même chose. Ok ? Donc comme ça on est d'accord. Hein? Donc le Christ ou le Messie est-il fils de David ? Peut donc aussi être posé ainsi. Le Messie est-il le fils de David ? La réponse est clairement oui. Clairement oui, et c'est une évidence pour les Juifs de l'époque. En fait, si on regarde le texte parallèle qui raconte cette situation dans le temple, dans Matthieu, en fait, Jésus même pose la question aux Juifs, puis il dit, de qui le Messie est-il le fils ? Puis il dit, de David. C'était clair, en fait, pour tous. Ce n'est pas quelque chose à remettre en question. Jésus ne le remet pas en question non plus. Cela vient d'ailleurs de la promesse de Dieu à David. En 2 Samuel 7, verset 12, il est dit ceci. Donc là, vous pouvez reprendre tout le chapitre 7 pour voir l'alliance de Dieu avec David. Hein. Mais dans le verset 12, il est dit « Quand tes jours seront accomplis, c'est Dieu qui parle à David, et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. » Donc ça veut dire qu'après David, il y aura toujours quelqu'un qui va régner. Et donc il y a dans toute la notion de l'annonce du Messie dans l'Ancien Testament, c'est celui qui va régner. Voilà pourquoi on fait le lien entre le fils de David et le Messie. Et les prophètes ont relayé cela aussi. Hein. Donc Ésaïe en parle, dans Ésaïe 9, Ésaïe 11, Ézéchiel, Osée, Amos. Et je vous lis juste ce que dit Jérémie dans Jérémie 33, 15. « En ce temps-là, je ferai germer à David. » Donc Jérémie, il a vécu après David. Hein. Qu'on ait la chronologie. Donc, hein. David est là, Jérémie est là, puis il parle de quelque chose qui se passe après. Donc en ce temps-là, je ferai germer à David un germe de justice. Il pratiquera le droit et la justice dans le pays. En ce jour-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera. L'Éternel, notre justice. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Voilà, donc la question, est-ce que le Messie est le fils de David, elle doit être claire pour tous. La parole est claire. Le Christ, le Messie, est fils de David. Dieu l'a promis à David. Et les prophètes l'ont également annoncé. Donc ça, c'est clair. Le Christ est le fils de David. Dieu l'a promis et les prophètes l'ont annoncé. Et Jésus ne le remet pas en cause dans ce texte. Mais il veut souligner cela pour indiquer un autre point important. Vous êtes prêts pour une petite parenthèse ? Oui, oui, c'est bien. Petite parenthèse. Quel est le lien de Jésus et le fils de David ? Eh bien, je vais vous donner trois éléments importants, trois informations importantes. La première, c'est le message que l'ange a donné à Marie avant la conception de Jésus. Et en fait, c'est très clair. Dieu annonce que Jésus sera le successeur de David. Il est écrit dans Luc 1, 31. Donc c'est l'ange qui parle. « Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Voilà, première information. Deuxième information, Jésus est un descendant légal de David par son père adoptif, Joseph. Ça, c'est l'évangile de Matthieu qui vous le prouve. Vous pouvez reprendre la généalogie de Matthieu 1, les versets 6 à 16, qui vous donne la généalogie de David jusqu'à Jésus-Christ par son père adoptif, Joseph. Donc, légalement, il est descendant de David. Et troisième information, eh bien, il n'y a pas que Matthieu qui aime les généalogies. Il y a aussi Luc. Luc nous donne aussi une généalogie de Jésus-Christ dans Luc 3. Et en fait, là, il nous a montré que Jésus est un descendant de sang de David. Et si on étudie un petit peu ces généalogies, on se rend compte que c'est la généalogie de Marie jusqu'à David. Voilà donc les trois informations. Le message que l'ange a donné à Marie, qui dit que Jésus serait ce descendant de David. Il est descendant légal par Joseph, et il est descendant de sang par Marie. Donc la question que Jésus va poser à propos de la relation de David avec le Messie, est en lien direct avec lui-même, en fait. Vous vous souvenez, il y a deux jours à Jéricho, il y a deux, trois jours, les aveugles qui criaient « Fils de David !» Et pitié de moi, c'est comme si, hop, là on est en train de réveiller quelque chose. Et le dimanche, là, quand la foule l'acclame et qu'il entre dans Jérusalem, hein, qui acclame la venue du royaume de David, la question de Jésus n'est pas posée par hasard. Et maintenant, il est clair que le Christ, le Messie est le fils de David. Vous êtes d'accord? Je peux continuer? Sinon, je dois encore vous convaincre, mais je crois que c'est bon là. Hein? Donc, on va continuer. Que signifie le Seigneur de David cette fois-ci? La deuxième partie de la question. Jésus va citer ici, au verset 36, le psaume 110. C'est pour ça qu'on a lu le psaume 110 tout à l'heure aussi, en introduction de la prédication. Ce psaume est le plus cité dans le Nouveau Testament. C'est celui qu'on trouve le plus souvent dans le Nouveau Testament et comme étant cité. Et en fait, il prend différentes parties de ce psaume 110. Ben, ouvrez vos Bibles dans le psaume 110, en gardant un petit doigt dans Marc 12, comme ça vous y reviendrez. Donc si on garde le psaume 110, j'ai été très tenté de faire tout un développement du psaume 110. Mais bon, ça fait déjà une prédication complète. Donc j'ai dû me limiter, mais je vais quand même vous donner quelques pistes de ce que, de quoi, à quoi vous pouvez réfléchir avec ce psaume. Parce que quand, dans le Nouveau Testament, on cite un psaume, généralement, ce n'est pas juste pour le début du psaume. Alors ici, Jésus, vous verrez, il est précis quand même par rapport au début, mais souvent, on pense à tout le reste. Quand Jésus dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, il cite le psaume 22. Mais c'est pour citer tout le psaume, pas juste le début. Vous voyez ? Donc ici, il y a aussi cette notion qu'il y a derrière. Je ne pourrais malheureusement aujourd'hui pas vous faire le grand développement. Mais quand même vous dire qu'ici, on voit dans ce psaume la notion du vainqueur, une notion de victoire qui est annoncée. Nous avons la notion du sacrificateur. Donc là, c'est aussi très étonnant qu'en fait, un fils de David puisse être lui-même un sacrificateur. C'est un fils de, parce que un fils de David, c'est un fils de Judas, ce n'est pas un fils de Lévi. Bon. Mais le psaume 110, il donne la solution ici. C'est qu'en fait, il est sacrificateur par Melchisédek. Mais comme j'ai dit, je ne peux pas le développer ici. Et puis même à la fin du psaume, il est parlé en clair encore du juge souverain. C'est celui qui va juger le monde. Donc voyez plusieurs thèmes qui sont ici, bah, que je peux juste vous dire en passant. Parce qu'on va revenir maintenant dans Marc 12, au verset 36. Donc Jésus, par la citation qu'il fait ici, indique, vous avez vu au verset 36, David lui-même animé par le Saint-Esprit. Juste cette petite phrase nous prouve que Jésus considère le psaume 110 comme étant parole de Dieu, inspirée de Dieu, inspirée par l'Esprit de Dieu, des paroles qui font autorité. Ce n'est pas un avis personnel, pas juste David qui dit « j'ai envie de dire ça ». Non, il est en fait animé par le Saint-Esprit. Et ça, c'est un élément important. Parce qu'en fait, ce qu'il va dire ensuite va, pardon, va avoir une autorité particulière. Et voici ce qu'il dit ici. Hein. Le Seigneur dit, ou David d'abord, David dit, le Seigneur. Et là, je vous dis que si jamais en hébreu, c'est Yahweh, le terme qui est utilisé ici. Donc, c'est l'Éternel. Le Seigneur dit à mon Seigneur. Le deuxième Seigneur, c'est Adonai, donc c'est, ça veut dire Seigneur dans le cadre du texte original. Donc, David dit que Dieu parle à son Seigneur. On va un petit peu essayer de comprendre là. Hein. Donc, David, il dit que Dieu parle à son Seigneur. Alors, nous savons bien qui est David, nous savons qui est Dieu, mais qui est la troisième personne à qui Dieu parle? C'est la question en fait. Et la personne à qui Dieu parle est supérieure à David. En fait, il l'élève en l'appelant Seigneur selon un oracle de l'Éternel. Hein, si vous regardez le psaume 110, il était parlé oracle de l'Éternel, ou bien le Seigneur dit, ou Dieu dit, à mon Seigneur. Et ce Seigneur sera assis à la droite de l'Éternel. Et il sera vainqueur. Vous vous souvenez de la promesse de 2 Samuel 7, 12 qu'on a vu tout à l'heure, hein? Le royaume de la descendance de David sera affranchi. Il s'agit du Messie ou du Christ. David a du respect pour l'Éternel et il a un respect étonnant pour ce Seigneur. Si c'est son descendant, comment est-ce possible qu'il ait autant de respect? Vous comprenez la situation? Vous avez dit qu'il fallait s'accrocher un peu là, hein? David lui-même l'appelle Seigneur, donc bien au-dessus de lui. Comment donc est-il son fils? En fait, un fils, c'est un descendant qui reçoit tout de son prédécesseur. Il ne peut pas être au-dessus, il a tout reçu d'eux. On se dit, Jésus, il fait des énigmes là. Hein? Et Jésus ne donnera pas la réponse à la question en plus ici. Est-ce que vous avez la réponse? En voyant la suite de l'histoire, il semble clair que la foule qui l'écoutait n'a pas su donner la réponse. Parce que si la foule avait du plaisir à l'entendre, mais si elle avait donné la réponse, elle n'aurait pas crié ce qu'elle a crié quelques jours plus tard. Pourtant, c'est en donnant la réponse à cette question et en comprenant les conséquences de cette réponse que tout change. Tout change. C'est une question clé. C'est pour ça que ce sont les dernières paroles de Jésus avant de mourir à la foule. Alors les Juifs pouvaient-ils donner une réponse à cette question ? Je me suis dit, mais est-ce que les Juifs pourraient répondre en fait à cette question? Avaient-ils des textes dans la parole, dans l'Ancien Testament, qui pouvaient les guider? Eh bien oui. Je vais vous en nommer trois, hein, pour voir le cheminement qui était possible de faire. Le premier, c'est dans Ésaïe 9. Ésaïe 9, les versets 5 à 6. Il est dit ceci. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Je fais peut-être déjà une ou deux remarques avant de continuer. Donc il est dit qu'un enfant est né et qu'on l'appellera Dieu puissant. Vous voyez, il y a quelque chose d'étonnant dans ce texte, de très étonnant. Je continue. Donc renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et donc il était clair qu'il est question ici du Messie du Christ, hein, Messie Christ ouin, je fais toujours un peu ce lien, que vous le fassiez aussi dans vos têtes. Hein. Donc là, ce texte parle clairement de ce Christ. Donc quelque part, les Juifs pouvaient déjà lire ça puis se dire, mais c'est étonnant, c'est très étonnant ici. Parce qu'il est né et on l'appelle l'Éternel. Deuxième texte, Michée 5, versets 2 et 3. Où il dit, c'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des fils d'Israël. Il se dressera et les fera paraître avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il est dès maintenant glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Il est de nouveau question ici d'une naissance, et de ce lien avec l'Éternel et le nom de l'Éternel. Troisième texte dans Malachie 3:1. Voici j'enverrai mon messager, il ouvrira un chemin devant moi et soudain entrera dans son temple. C'est le temple à lui, à qui appartient le temple, à l'Éternel. Hein. Donc, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. Et Jésus est dans le temple au moment où il pose la question du fils de David et du Seigneur, etc. Donc avec ces textes de Isaïe, Michée et Malachie, les Juifs pouvaient voir que le Christ, le Messie, aurait une nature particulière. Ça, ils pouvaient le voir. Il aurait une nature particulière et même qu'il est en lien avec Dieu ou qu'il est Dieu lui-même. Ainsi, il est possible de comprendre pourquoi David l'appelle son Seigneur. Donc c'était pour me dire, mais est-ce que les Juifs avaient la possibilité d'avoir des textes qui les aidaient à répondre à cette question? Nous pouvons répondre oui. Maintenant, est-ce que les Juifs pouvaient concilier que le Christ, le Messie, soit en même temps un descendant de David et Dieu lui-même? Est-ce que vraiment ils pouvaient concilier ça? Est-ce que vous le pouvez? Ben en fait, c'est inconcevable. C'est compréhensible que ce soit inconcevable. C'est quelque chose de complètement étonnant. C'est quelque chose qui dépasse toute personne qui y réfléchit. Et pourtant, Jésus l'a accompli. Jésus est en même temps fils et Seigneur de David. C'est lui la clé en fait. Il est en même temps le fils et le Seigneur de David. Jésus est Dieu de toute éternité. Il est le fils du Dieu éternel. Il n'y a pas eu un instant où il n'était pas le fils, où il n'existait pas. J'ai été très frustré il y a quelques semaines, deux semaines quand j'étais au stand, où quelqu'un est venu, ça devait être un imam je crois, qui m'a dit « Qui est Jésus pour vous ?» Puis j'ai dit « Ben, le Fils de Dieu ». Puis il m'a répondu, j'étais dans une autre discussion, je n'ai pas pu répondre. J'étais très frustré. Ben, j'aurais voulu lui dire « Mais en fait, Jésus est le Fils éternel de Dieu. » Il n'y a pas eu un moment donné où Dieu est devenu papa. Il n'était pas avant, puis il est devenu papa. Non ! Ben, c'est ce qu'on nous dit en fait. On dit « Ben voilà, Dieu, il a eu un enfant. » Non ! Jésus-Christ est fils éternel de Dieu. Dieu n'a jamais existé sans être père et fils. Il n'existe pas. Père, fils, Saint-Esprit d'ailleurs, la Trinité. Donc c'est pas tout à coup Dieu il était tout seul et puis il est devenu père puis il y a un fils. Non. On ne croit pas à ça. C'est le fils éternel. Et Jésus est le fils éternel. Il n'y a pas eu un moment où Jésus n'était pas fils, où il n'existait pas. Ok ? Donc c'est éternellement qu'il est le fils de Dieu. Parce que Jésus est fils éternel, David l'appelle son Seigneur. Il était déjà là quand David est né. C'est son Seigneur. Et Jésus qui est Dieu de toute éternité, il est le fils éternel, il a la toute puissance, il peut faire ce qu'il veut. Ça c'est ce que je dis à ceux qui disent ben, Dieu ne peut pas être un homme. Je dis attends, est-ce qu'il peut tout faire ce qu'il veut? S'il peut tout faire ce qu'il veut, il peut devenir homme en restant Dieu. C'est possible. Et c'est ce qu'il a fait. Hein? Et il s'est incarné dans Marie et est devenu un homme tout en restant Dieu. Ainsi, il est devenu un descendant de David. On arrive donc à la conclusion de la réponse à cette question. Et c'est en fait l'apôtre Paul qui nous donne la réponse la plus complète. C'est pour ça qu'on a déjà lu Romains 1 tout à l'heure. Je vais le relire maintenant. Je lis la question. Donc, le Seigneur dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils ? Romains 1, 2. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils. Ça, c'est le fils éternel de Dieu. Né de la descendance de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Hein, puisque lors de la résurrection, en fait, ça a été une manifestation de qui était Jésus. Il n'est pas devenu fils de Dieu à ce moment-là, c'était une manifestation, en fait, de qui il était. Donc la réponse à la question de Jésus, David lui-même l'appelle Seigneur, comment donc est-il son fils, indique que Jésus-Christ, ou Jésus-Messie, hein, maintenant vous faites les liens, hein, est le descendant de David et le Seigneur de David. Alors, lors de son dernier renseignement public, en fait, Jésus a donné la clé pour expliquer ce qu'il ne pourra pas expliquer lors du procès devant le Sanhédrin. En fait, la question qui lui sera posée, c'est « Es-tu le Christ, le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus répondra « Je le suis. » Mais on ne lui laissera pas le temps d'expliquer la chose. Mais il l'a déjà fait, ici, dans ce texte, avec sa question. Et il le fait d'avance, aussi comme un appel à tous ceux qui voudraient comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Parce que celui qui rejette le Messie, le Christ, en fait, rejette le salut. Et il n'y a aucun moyen d'échapper au jugement de Dieu sans ce Messie. Aucun moyen. La question nous est donc maintenant posée, à vous et à moi. Reconnaissons-nous Jésus-Christ comme Seigneur ? Est-ce que Jésus est Seigneur ? Et cette question est très sérieuse, hein, car notre salut nous en dépend. Ce n'est pas moi qui le dis. Dans Romains 10, au verset 9, il est dit ceci. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Il ne s'agit pas simplement de dire des mots, et voilà le salut. Non, il s'agit de dire ce qui est vécu, le désir le plus profond, le but vers lequel on tend. Est-ce que tu peux dire « Jésus est Seigneur » ? Cela signifie qu'il est le roi, qu'il a tous les droits. L'obéissance est totale envers lui. Il passe avant tout, même avant nous-mêmes. Tout ce que j'ai lui appartient. Je suis sous ses ordres, je cherche son honneur, sa gloire. Peux-tu dire « Jésus est Seigneur » ? Oui, nous aimons penser à ce roi conquérant qui est venu se battre jusqu'à la mort pour sauver son peuple de l'enfer éternel, qui est venu pour ouvrir un chemin vers la patrie céleste, qui a tout accompli de manière à ce que nous puissions être certains que nous sommes réellement purifiés, pardonnés, relevés, avec une espérance réelle d'un royaume éternel de bonheur, d'une présence réconfortante à tout moment. Oui, bien sûr, quand je vous dis ça, est-ce que vous pouvez dire « Jésus est Seigneur » ? Oui, mais... est-il vraiment Seigneur ? Impossible d'être libéré de ses péchés sans reconnaître toutes les conséquences de ce que veut dire Jésus est Seigneur. Avoir un sauveur qui ne serait pas notre Seigneur est impossible. Celui qui dit « Ouais, moi j'ai mon sauveur Jésus-Christ, mais il n'est pas mon Seigneur. » C'est pas possible. C'est pas possible. Il ne peut pas être sauveur sans être Seigneur. C'est impossible. J'ai malheureusement pas le temps de vous développer ça. Mais c'est impossible. Celui qui dit que Jésus est son sauveur, mais pas son Seigneur, n'est pas sauvé. Romains 19 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Si vous n'avez pas encore reconnu Jésus comme Seigneur, je peux que vous dire, mais implorez-lui de vous donner cette grâce. Dites-lui que vous le désirez, que vous comprenez votre état de pécheur sans aucun espoir de pouvoir effacer quoi que ce soit. Implorez Dieu de vous accorder son esprit afin que vous puissiez dire de tout votre cœur, sans aucune retenue, en vous réjouissant d'être sous sa royauté, Jésus est Seigneur. Il est écrit dans 1 Corinthiens 12, verset 3, « Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » Et je prie que notre Seigneur Jésus-Christ accorde ici à chacun ici présent un cœur rempli du Saint-Esprit qui puisse dire « Jésus est Seigneur » et que nous le vivions. Jésus, après avoir posé sa question fondamentale, vous vous rendez compte maintenant que c'était une question fondamentale, hein, la dernière qu'il a posée, qui semblait énigmatique, va mettre en garde afin de nous pousser à vivre selon notre réponse et non selon celle des scribes de l'époque qui ne l'ont pas reconnu comme Seigneur, en fait. C'est notre deuxième point qui sera assez court. Et ça touche les versets 38 à 40. On va simplement les relire. Mais je vous dis déjà que dans ces versets ici, Jésus parle de ceux qui vivent en Seigneur eux-mêmes. On ne reconnaît pas le Seigneur devant qui on va donc obéir et suivre, mais on va être nos propres seigneurs. Et voilà le tableau. Il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes. Ils désirent se promener en longue robe. Ils désirent les salutations sur les places publiques, les premiers sièges dans les synagogues, les premières places dans les repas. Ils dévorent les maisons des veuves et font pour l'apparence de longues prières. Ils subiront une condamnation particulièrement sévère. » Jésus décrit ici ceux qui veulent être leur propre Seigneur. J'en ai tiré 6 caractéristiques. Celui qui veut être son propre Seigneur désire paraître bien. Hein, les longues robes, bon, maintenant, on ne va pas mettre des longues robes, c'est plus à la mode ici, c'est plus l'idée. Mais l'idée des longues robes, c'était de montrer comme quelqu'un est religieux, comme il est proche de Dieu. Et toute cette notion aussi des robes en lin, comme les prêtres, enfin, etc., toutes sortes d'imagerie qui étaient là pour montrer, mais moi, je suis quelqu'un de religieux, je suis quelqu'un de proche de Dieu, etc. Le désir d'être élevé dans le cœur des gens, qui est considéré comme moralement et spirituellement supérieur. Et c'était le cas, hein. Les gens les voyaient comme moralement supérieurs. C'est le désir d'être vu parfait. C'est ça quand on veut être son propre Seigneur. Deuxièmement, celui qui veut être son propre Seigneur désire les salutations sur les places publiques, désire d'être vu, adulé, être quelqu'un d'important, de ne pas laisser indifférent, mais qu'on ne le dédaigne pas. En fait, c'est le désir d'être reconnu. Ben oui, quand on est Seigneur, il faut qu'on soit reconnu, évidemment. Troisième, celui qui veut être son propre Seigneur désire les premiers sièges dans les synagogues. Le désir d'être vu, d'être une référence, de pouvoir guider, même spirituellement, donner son avis qui sera écouté. En fait, c'est un désir d'être élevé. Quatrième élément, celui qui va être son propre Seigneur désire les premières places dans les repas. Il désire être choyé, de vivre dans le confort, de ne pas avoir à attendre, de ne pas se restreindre. En fait, le désir d'être le centre de l'attention. Cinquièmement, celui qui va être son propre Seigneur dévore les maisons des veuves. Le désir de posséder exige même de ceux qui ne peuvent pas payer. Comme ils se sentent seigneurs, c'est pas eux de faire un pas vis-à-vis de l'autre. Sinon, c'est plus des seigneurs. C'est les autres qui deviennent des seigneurs, enfin, à leurs yeux. C'est le désir d'avoir le droit sur la vie des autres. Ça va être le Seigneur. Et dernièrement, celui qui veut être son propre Seigneur va faire semblant de vivre la piété. Peut-être même qu'il fera payer ses prières à la veuve, ça se faisait d'ailleurs. Car en tant que Seigneur, c'est lui qui est capable de prier, de bien prier, évidemment. Donc le désir d'être vu comme étant bon. Mais celui qui reconnaît Jésus comme étant Seigneur, comme David, va vivre très différemment. En fait, il n'aura pas le poids de devoir vivre ou de devoir jouer au Seigneur tout le temps. Non. Ni la frustration de ne jamais le pouvoir, vraiment, parce qu'il y a toujours quelqu'un d'autre qui va chercher à prendre la place. Celui qui reconnaît Jésus comme Seigneur, en fait, est libre. Celui qui reconnaît Jésus comme Seigneur est libre. Il n'a pas besoin de jouer à la perfection. Son Seigneur est parfait. Il n'a pas besoin de chercher la gloire. Son Seigneur a toute la gloire. Il n'a pas besoin d'être la référence. Son Seigneur est le guide suprême. Il n'a pas besoin d'être au centre de l'attention, c'est son Seigneur qui est au centre. Il n'a pas besoin d'avoir des droits sur la vie des autres. En fait, c'est son Seigneur qui est le maître. Il n'a pas besoin de faire semblant d'être bon. Son Seigneur est parfaitement bon. Et vous savez quoi? C'est encore plus grandiose. C'est que notre Seigneur nous fait même participer à toutes ces choses. Non seulement c'est lui qui est le centre et qui porte quelque part toute l'autorité, toute la puissance qu'il faut pour être un Seigneur, un vrai Seigneur qui prend soin, etc. Mais en plus, il nous fait participer à tout cela parce qu'il nous aime. Alors que celui qui va être son propre Seigneur devra subir une condamnation. Celui qui va être son Seigneur devra aussi faire face au jugement en étant Seigneur lui-même. Vous savez, si on veut jouer au Seigneur, ben, faut le jouer jusqu'au bout alors. Donc devant le jugement, on ne peut pas dire « je vous présente mon Seigneur qui va prendre soin de moi et qui va me défendre. C'est moi le Seigneur si j'ai joué. Bon ben ok, je dois assumer. Et c'est quoi qui est sur moi? Le jugement éternel. Le jugement éternel. Parce que ce n'est pas possible de payer pour les fautes que l'on a faites. Même si un de ces soi-disant seigneurs payait pour l'exploitation de quelques veuves, il ne pourrait même pas payer le temps de souffrance et de ravage qu'il a fait pour eux, ou qui a même tué des personnes. Il ne peut pas dire quand il vient devant le juge, « Bon, c'est vrai que j'ai tué une personne, mais bon, toute ma vie j'ai été gentil avec ma maman, j'ai fait des bonnes actions. » Mais non, le meurtre demande le jugement. Et celui qui veut être son propre seigneur, eh bien alors qu'il assume le jugement. Mais c'est terrible, parce qu'assumer le jugement, c'est être réellement jugé et vivre ce jugement éternel sous la colère de Dieu. Pour celui qui dit « Jésus est mon Seigneur !» Que se passe-t-il? C'est mon Seigneur qui va faire face au jugement. C'est lui qui va prendre sur lui la juste colère qui en fait est pour toutes les fautes commises, malgré le désir de bien faire. Je n'aurai pas à jouer au Seigneur qui va se battre. Non, je n'ai pas de force, mais j'ai mon Seigneur qui a payé pour moi et qui me fait entrer dans son royaume. Vous savez, ici, ce discours sur les scribes, c'est très sérieux. C'est les derniers mots de Jésus, au public. Il les met en garde. Il vient leur donner la clé avec cette question. Hein, mon Seigneur dit à mon Seigneur, on en a compris ce que ça signifie. Et là, il met en garde. N'allez pas dans cette direction. C'est vrai qu'on aime terminer nos discours par une note positive, qui nous encourage, qui nous stimule. Parce qu'un avertissement, c'est quelque chose de positif. Ben, je dirais en conclusion que les avertissements de Jésus sont toujours empreints de bonté. Les avertissements de Jésus sont toujours empreints de bonté. Il n'avertit jamais pour enfoncer dans le mal. Il avertit pour que nous puissions nous détourner du mal. Alors que nous marchons vers un précipice, et sans nous en rendre compte, Jésus nous avertit, stop, arrête-toi! C'est négatif, là? Bon, le stop, ça paraît négatif, hein, c'est ne pas faire quelque chose. Oui, mais attends, c'est super positif. Il te protège de la chute, dans la géhenne. Alors si aujourd'hui vous êtes rendu compte que vous n'avez jamais dit publiquement et de tout votre cœur, Jésus est Seigneur, eh bien je vous encourage à réfléchir. Car vous ne savez pas si demain, vous aurez encore la possibilité de le dire. Et pour ceux qui ont témoigné, qu'ils continuent à dire que Jésus est Seigneur, réjouissons-nous de ce que notre Roi Sauveur a pris notre condamnation et cherchons à vivre chaque instant à l'inverse des scribes du verset 38 à 40. Et réjouissons-nous dans l'humilité, l'abnégation, l'endos de soi et la vraie piété. Alors cette semaine, pour ceux qui ont déjà dit Jésus est mon Seigneur, je le fais avec vous, de se dire à chaque instant, Jésus est-il mon Seigneur? Autant dans les moments où on doit prendre des décisions que dans les moments où on a besoin d'être délivré du mal. Jésus est-il mon Seigneur là? Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te remercions parce que tu es venu sur cette terre en Jésus-Christ et que toutes tes paroles sont bonnes et que tes paroles sont utiles et puissante. Et j'aimerais te prier que ton esprit, Père, touche nos cœurs et que nous comprenions que cette question que tu as laissée aux Juifs et que tu nous laisses à nous est une question fondamentale, une question de vie ou de mort, une question où nous pouvons être soit dans une situation où nous sommes paisibles parce que nous avons un Seigneur qui réellement peut prendre soin de nous, ou bien nous sommes dans une situation où nous ne saurons jamais si nous sommes renversés en jouant au Seigneur. Éternel, nous te prions de nous donner cette grâce de comprendre que lorsque tu es ce Seigneur, que tu le deviens dans une vie, c'est pour le meilleur. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.